Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Droit devant, donc une émission juridique permettant de mieux comprendre le droit et notamment le droit des étudiants. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au droit du logement avec tout d'abord une revue de presse reprenant la loi Duflot présentée par Geoffrey. Après une pause musicale, restez à l'écoute pour le reportage de Thomas et Marion. Donc nous sommes allés à la rencontre d'étudiants de Rennes 2 qui nous confient leurs problèmes de logement. Bien sûr, à chaque problème, il existe une solution. C'est ce qu'on essaiera de voir en répondant aux questions juridiques dans un cas pratique. Après quoi, une petite pause à nouveau musicale. Et puis enfin, l'interview exclusive de Geoffrey. Il a rencontré une salariée de l'association d'aide au logement, La Maison en Ville.
Nous allons donc maintenant vous parler du projet de loi Duflot, adopté par l'Assemblée nationale le 17 septembre dernier. Projet de loi qui permet notamment de faire bénéficier les particuliers qui achètent des logements neufs et qui les louent dans la foulée, de réduction d'impôts. Le but premier de ce projet de loi est d'encourager la construction de nouveaux logements afin de répondre à une crise du logement de plus en plus importante dans notre pays. Pour ce faire, le projet de loi prévoit l'entrée en vigueur pour le 1er janvier 2016 d'une « Garantie universelle des loyers » ou GUL, qui permettra d'assurer les propriétaires contre les risques d'impayés et sera financée à moitié par les locataires et les propriétaires. L'objectif est de rassurer les propriétaires afin d'éviter que les logements restent vides par peur des impayés. Ceci favorisera donc l'accès au logement pour tous, car permettra d'offrir plus de choix pour les étudiants. Également, ce projet de loi a pour but de renforcer les droits des locataires, et c'est sur ce point que nous allons nous attarder aujourd'hui. Ainsi, ce projet prévoit notamment l'encadrement des loyers dans les zones marquées par un fort déséquilibre entre offre et demande de logement. En cas d'adoption du projet de loi par le Parlement, ce sont les préfets qui, chaque année, fixeront par décret un loyer médian de référence et que les propriétaires ne pourront pas dépasser au-delà de 20%. Le projet de loi entend aussi limiter la rétention abusive du dépôt de garantie. En cas d'abus de la part du bailleur, ce dernier devra verser au locataire une pénalité de 10% du dépôt par mois de retard. Cette mesure vient en réponse à la non-récupération très fréquente des cautions locatives dans plus d'un tiers des cas selon une étude de 2010. S'agissant des frais d'agence à payer par le candidat à une location, ils vont être réduits et plafonnés. Le projet de loi Duflot a aussi l'intention d'empêcher le logement des personnes dans des biens insalubres. En effet, les personnes déjà condamnées pour avoir loué des habitats dangereux et délabrés seront désormais interdites d'achat de biens immobiliers destinés à la relocation, et ce pendant 5 ans. En cas de décision d'évacuation d'un immeuble insalubre par le maire, le bailleur sera aussi dans l'obligation de reloger à ses frais les occupants des biens qu'il louait. Enfin, le projet de loi prévoit également la création, dans chaque département, d'une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Ceci apparaît donc comme une sécurité supplémentaire pour les locataires en difficulté, étant donné qu'aucune expulsion locative ne pourra être exécutée sans l'accord de cette commission. Autant de mesures qui viendront donc renforcer les droits des jeunes locataires, à condition bien entendu que le projet de loi soit enfin adopté par le Parlement.
Thank you.
C'était Patti Smith sur Radio Campus Rennes, Ask the Angel. Alors on enchaîne maintenant avec le reportage de Thomas.
Alors effectivement, on va passer maintenant des arcanes de l'Assemblée nationale au couloir de la faculté de Villejean à Rennes. La rentrée, la recherche d'un logement, moment particulièrement stressant, on sait tous qui peut bien se passer ou pas. Alors justement, comment les étudiants parviennent-ils à se loger à la rentrée ? À quelles difficultés ou à quelles opportunités peuvent-ils être confrontés ? Alors dans un premier reportage, Julie va nous donner l'exemple d'une de ces surprises qui peuvent vous gâcher la rentrée.
Je m'appelle Julie, j'ai 20 ans, je suis en licence 2 histoire de l'art et archéologie, donc à Rennes 2. Pour le moment, mon appartement il est situé au quartier Saint-Étienne à la gare, donc à 15 minutes bus métro de la fac. J'ai 30 mètres carrés pour 387 €, donc ce qui n'est pas cher. Puis je suis bien située, j'ai aussi une place de parking, donc j'ai trouvé un peu l'idéal. Sauf que depuis mai-juin, j'ai eu ma régularisation d'électricité, j'ai eu une très mauvaise surprise, donc j'ai beaucoup consommé pour le peu que j'étais dedans et pour le peu que j'ai aussi dedans. Donc j'ai cherché à joindre d'abord l'agence par laquelle je suis passée. Ils ont fait appel du coup à un technicien d'électricité pour venir jeter un coup d'œil dans l'appartement. Et il a déduit déjà que mon compteur était beaucoup trop vieux, donc il devait certainement tourner trop vite. Ou alors le ballon d'eau chaude qui était trop entartré, qui surchauffait. Et il n'y avait même pas d'heure creuse ni d'heure pleine en fait. Donc en gros, pour 6 mois, en étant réellement 4 mois dedans, parce que j'ai un mois de vacances en décembre pour les partiels, je rentre tous les week-ends quasiment, j'ai eu 659 € d'électricité. Donc c'est vrai que ça fait mal. Ça ferait du 1 200 € par an, ce qui est juste énorme. Ils pensaient que c'était moi, ils n'arrêtaient pas de me dire que c'était de ma faute, que je ne faisais pas attention alors que ce n'était pas du tout le cas. Donc ils nous ont dit que si on voulait avoir un changement de compteur, il fallait joindre EDF, mais que s'il n'y avait pas de souci, c'était à nous déjà de payer le déplacement. Et même s'il y avait un souci, c'était à nous de payer le changement du compteur, alors qu'il ne m'appartient pas. Donc on attend un peu de voir là, on va faire un nouveau relevé de compteur au mois de décembre, ça fera un an que je serai dedans, voir si ça a encore surconsommé durant l'été alors que j'y étais pas pendant 3-4 mois que tout était fermé. Et si c'est le cas, on va voir pour changer d'appartement parce qu'ils veulent rien faire.
On voit donc l'exemple d'un problème qui va pousser Julie à devoir continuer à suivre de près sa consommation d'électricité pour éviter d'autres mauvaises surprises. Et peut-être à se battre pour faire valoir ses droits auprès de son propriétaire pour le changement de son compteur. On passe à un autre exemple, cette fois Maxime, toujours rencontré dans les couloirs de Rennes 2. Alors pour Maxime, la colocation était la bonne solution pour se loger à la rentrée. Revers de la médaille, quand on choisit un logement, on ne sait pas toujours qui seront nos voisins et comment va se passer la cohabitation.
Voilà, je suis Maxime, j'ai 21 ans et je fais des études de communication en Master 2 à Rennes 2. Et j'habite dans le sud de Rennes, dans le quartier de la Poterie. On s'est groupé avec des amis pour se mettre en coloc et à la suite de ça, on a approché une agence pour avoir une maison. Et donc on a constitué un dossier et voilà, on a eu cette maison. Donc on est trois et on se connaissait depuis d'une ancienne coloc. Et pour mon autre colocataire, c'est on l'a connu par nos cercles d'amis en fait. En fait, c'est parce qu'on s'est connu que ça s'est bien passé qu'on a voulu se mettre en coloc.
Voilà. D'accord. Et avec les voisins, comment ça se passe alors ?
Donc avec les voisins, c'est pas l'idéal parce qu'on est donc dans un quartier résidentiel dont la moyenne d'âge est assez élevée. Et donc nous sommes trois jeunes, donc soit étudiants, soit jeunes actifs. Donc avec un rythme de vie qui ne correspond pas à nos voisins tout simplement. Nos horaires de coucher par exemple, on est décalé de 3-4 heures par rapport à eux. Ça pose problème puisque tous les bruits sont répartis dans le plancher et dans le plafond et donc ça s'entend, chaque porte qu'on ferme ça s'entend. Ça veut dire que par exemple si on invite des amis à manger qui vont arriver vers 9h30, qui vont repartir vers 11h30, minuit, c'est déjà trop puisque à côté nos voisins, eux à 9h30 ils ont fini de manger, et ils sont déjà devant la télé puis après ils vont aller dormir si c'est pas déjà fait. Donc on peut pas leur demander de changer leur mode de vie du jour au lendemain. Et même on n'a pas à leur demander, mais on peut pas non plus de trop changer le nôtre. Donc il s'agit de faire des concessions et d'essayer de penser un peu aux autres.
« Alors on continue notre émission consacrée au droit du logement. On va maintenant s'intéresser à ces petites questions juridiques qui peuvent parfois poser de gros problèmes. Vous avez déjà dû vous aussi rencontrer ce genre de situation. Vous emménagez par exemple dans un appartement et le propriétaire vous demande une énorme caution. Ou bien vous organisez chez vous une soirée crémaillère et un invité fait exploser le four à micro-ondes sans le faire exprès. Ça arrive parfois. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors on va essayer de trouver des solutions, on va pour cela se pencher sur le cas de Mathias. Donc c'est une histoire que l'on a inventée et qui reprend toute une série de problèmes que peuvent rencontrer les étudiants. Alors Thomas, qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre Mathias ?
Eh bien c'est la totale. Mathias, c'est un étudiant qui est originaire de Marseille. Il a postulé pour intégrer l'école de ses rêves, il a été accepté. Donc, direction la Bretagne. Il débarque à Rennes, tout content, et à partir de fin août, commence à chercher un logement. Donc pendant 2 semaines, il enchaîne les appels, les visites de colocation et d'appartement, et puis il finit par trouver une annonce sur internet. Un studio, 16 mètres carrés, non meublé, à Villejean, 350 euros par mois. Il rencontre le propriétaire, il signe rapidement un bail, pressé de quitter l'auberge de jeunesse où il était resté depuis 2 semaines, il s'installe dans son nouvel appartement, et le lendemain, le propriétaire le rappelle et lui demande 700 euros de caution, soit 2 mois de loyer. Ça lui semble beaucoup. Alors il se demande si le propriétaire a le droit de lui demander autant.
Alors non, en théorie, il n'a pas le droit. Ce qu'on appelle caution est en réalité un dépôt de garantie. Il sert à couvrir le bailleur des éventuels dommages causés par le locataire. Donc depuis le 8 février 2008, le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 1 mois de loyer hors charge pour un appartement non meublé. C'était avant 2 mois. Donc quand est-ce qu'il doit être versé ? La plupart du temps, au moment de la signature du bail, mais il peut aussi être différé en accord avec le propriétaire.
Alors, le propriétaire souhaite encaisser le chèque de dépôt de garantie. A-t-il le droit ?
Oui, il peut l'encaisser. Par contre, il devra le restituer à la fin du bail. Donc, il a un délai de 2 mois après la remise des clés et après avoir comparé l'état des lieux d'arrivée avec celui de départ. Si le logement a subi des dégradations, donc le dépôt de garantie peut être ponctionné du montant des réparations. Et alors là, c'est au cas par cas.
Alors, Mathias est un peu rassuré. Pour fêter son emménagement, il décide d'organiser une grosse soirée crémaillère. 30 personnes envahissent son studio. Les voisins, d'ailleurs, menacent d'appeler la police. Vers minuit, on entend un grand bruit. L'un de ses amis voulait imiter Batman et il a cassé une fenêtre. Qui va payer ?
Oui, alors là, il est question de la responsabilité du locataire. Donc la loi en vigueur date de 1989. Elle énonce que le locataire est considéré comme pleinement responsable de toutes les détériorations ou pertes survenues dans le logement au cours de la période de location. Donc Mathias est responsable des détériorations, comme par exemple une inondation, une fuite de gaz, un vol, si cela bien sûr a lieu à cause de lui. Il est aussi responsable des dommages causés par ses amis n'habitant pas le logement et il doit assurer l'entretien de l'appartement. Donc pour se protéger face à ces situations, il est recommandé au locataire de souscrire une assurance logement et d'avoir une assurance responsabilité civile. Donc Mathias doit rembourser la fenêtre à son propriétaire. Le mieux pour ça, c'est de constater par écrit les dégâts avec son ami et de voir après quelle assurance peut rembourser les dégâts, si c'est la sienne ou celle de son pote.
Alors l'incident est finalement réparé. Mais Mathias est à nouveau préoccupé. Samuel, un ami de Marseille également, vient d'arriver à Rennes. Il vient pour faire un stage de 2 mois, mais il n'a pas encore de logement. Donc comme il reste un peu de temps, Mathias lui propose de l'héberger. Il demande pour cela à son ami une partie du loyer, ce qui lui permet de rembourser son découvert en banque. Alors bien sûr, la relation avec son propriétaire s'est dégradée depuis la fameuse soirée crémaillère. Donc Mathias décide de ne pas lui parler, à son propriétaire, de son nouveau colocataire. Est-ce qu'il a le droit ?
Alors, ce que fait Mathias, là, c'est une forme de sous-location puisqu'il se sert de l'argent pour payer le loyer. Donc, d'un point de vue juridique, c'est illégal. Le régime est soumis à la loi Mermaz du 6 juillet 1989 et Mathias ne peut pas sous-louer son appartement sans l'accord écrit du propriétaire. S'il ne le prévient pas, il risque la résiliation du bail et le sous-locataire risque l'expulsion. En réalité, il y a souvent moyen de trouver des arrangements à l'amiable, mais le mieux quand même, c'est de prévenir son propriétaire.
Alors finalement, Samuel décide d'aller habiter ailleurs. Il a trouvé une super colocation, finalement, au centre de Rennes. Donc il propose à Mathias d'emménager avec lui. Mathias n'est pas très satisfait de son logement. Il est loin de la fac et il se sent un peu seul dans son studio. Donc il aimerait bien suivre son ami, mais peut-il quitter aussi facilement son appartement ?
Alors, en principe, non. Il existe des délais légaux à respecter. Ils sont normalement rappelés sur le contrat de bail. Pour un logement non meublé, le locataire peut notifier son congé à tout moment pendant le bail avec un préavis de 3 mois, réduit à 1 mois dans plusieurs cas. Donc, ces cas sont listés. Mais là, ils ne correspondent pas à la situation de Mathias qui est étudiant. Donc, il doit envoyer une demande de résiliation de bail 3 mois jour pour jour avant de quitter le logement. Il faut noter que si le logement avait été meublé, le délai aurait été ramené à 1 mois selon la loi.
Donc, contraint et forcé, Mathias va donc rester dans son appartement. Une semaine plus tard, il revoit Samuel dans son nouveau logement. Il découvre que le logement en question n'est pas aussi idéal qu'il le pensait. Les colocataires vivent dans une sorte de cave sans fenêtre. Le truc un peu glauque. Mathias se demande si un tel logement peut effectivement être habité.
Oui, alors là, le logement de Samuel a l'air en effet insalubre. La loi énonce 29 critères définissant la salubrité d'un logement. Donc on a par exemple la taille, un logement d'une superficie inférieure à 9 mètres carrés est considéré insalubre. De même, un appartement n'ayant pas l'eau courante ou l'eau chaude, ou bien pas de fenêtre ou un système électrique défectueux est considéré aussi insalubre, hein, bien sûr. Si le logement de Samuel présente un danger pour la santé de ses occupants ou de ses voisins, il est considéré comme insalubre. Donc Samuel dispose de plusieurs voies de recours. Il peut commencer par un échange amiable avec son propriétaire. S'il n'obtient pas de réponse de sa part, il pourra saisir l'Agence régionale de la santé et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Il peut aussi être utile d'avertir le service communal d'hygiène et de santé qui rende un rapport sur l'état de l'immeuble concerné.
Mais en attendant, que va faire Samuel ?
Il peut retourner vivre chez Mathias, comme ça il se sentira moins seul. Après, est-ce que son propriétaire acceptera de l'héberger ? Alors là, c'est un autre problème, c'est pas si simple.
Ah merde, j'étais pas... On repart une nouvelle fois dans les couloirs de la faculté de Villejean à la rencontre d'étudiants et de leur situation ou de leurs problèmes de logement. Eva va nous expliquer les difficultés qu'elle a rencontrées pour trouver un logement et comment le recours à une agence s'est avéré indispensable.
Donc, je m'appelle Eva et je suis en L3 Lettres Modernes. J'ai un appartement depuis maintenant 1 an avec mon compagnon. On a trouvé par agence, ça a été un peu difficile car au début on voulait pas passer par agence puis on n'a pas eu le choix. Car on avait une dizaine de visites prévues, on a réussi à en visiter un. On nous a posé beaucoup de lapins, des personnes qui nous appellent 5 minutes avant pour nous dire que l'appartement est pris et puis d'autres qui étaient un peu insalubres.
Et donc finalement, en passant par l'agence, après vous avez trouvé quelque chose ?
Oui, on a trouvé un 50 mètres carrés qu'on paye 600 euros. Donc c'est plutôt bien, dans le centre, divisé par deux, en plein centre-ville de Rennes. Donc ça c'est bien.
Et combien de temps vous avez mis à peu près pour trouver le logement là, entre tous les lapins que vous avez eus par les propriétaires et après l'agence ?
On a mis à peu près 2 mois. On avait commencé fin août, on a emménagé le 1er novembre. En fait, j'avais un autre appartement avant, mais le propriétaire était très très sympa. Il nous a dit qu'on pouvait partir quand on voulait. Donc on a mis 3 mois de préavis et puis il nous a dit quand vous trouvez, je mets la fin.
Mais il existe une alternative aux agences. Sous certaines conditions, les étudiants peuvent rechercher un logement en s'adressant au CROUS. Et Myriam nous raconte ses aventures dans le cadre des différents logements qu'elle a trouvés par l'intermédiaire de cet organisme.
Alors, je m'appelle Myriam Martin, je suis étudiante en Master 1 de LEA. Donc, je suis arrivée sur Rennes il y a 3 ans. Je cherchais via le Bon Coin et via le site des annonces de particuliers sur le CROUS. Donc, j'ai visité plusieurs appartes, même étant sur le CROUS, qui était de qualité bien variable. Au final, j'ai eu la chance d'être en 9 mètres carrés en CROUS, un 9 mètres carrés rénové, où on a illégalement vécu à deux, quoi que ce soit, ça se soit très bien passé. Et être à deux dans 9 mètres carrés, c'était pas spécialement ce qu'il y avait de plus faisable au niveau sommeil, etc., sur un an. Dans un petit lune place. Et au final, avec le CROUS, on a fait une demande de logement en couple. Même si mon compagnon à l'époque n'était pas encore étudiant. Et avec une attestation sur l'honneur, ils ont pu nous proposer plusieurs appartements allant du T1 bis au T2. Et on a eu la chance d'être dans un T2 à l'art, où on l'a surnommé le château parce qu'on a presque 50 mètres carrés. Et ça a été une très bonne expérience. Et même si il y a des avantages et des inconvénients au Crous, moi ça m'a paru être une bonne solution tant qu'on peut en profiter.
Alpha Blondie avec le morceau Brigadier Sabari sur Radio Campus Rennes 88.4. Et on va maintenant écouter une interview qui s'est déroulée hier à Rennes avec une salariée de l'association d'aide au logement La Maison en Ville. Donc alors je vais vous demander de vous présenter, de nous faire part de votre rôle dans l'association, puis de présenter l'association et son rôle s'il vous plaît.
Bonjour, donc je suis Axel Verny, donc de l'association de La Maison en Ville. Moi, dans la structure, je suis chargée du développement de la communication et du suivi d'une forme de logement que nous proposons. On pourra en parler après. La Maison en Ville, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 16 ans, qui est une association rennaise créée donc il y a 16 ans et dont l'objet est d'aider les étudiants à s'insérer dans la ville en leur proposant un logement. Et a priori, un logement où ils vont être accueillis. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait de l'accueil par le logement, avec plusieurs formes de logements possibles pour les étudiants. Alors, on a trois formes de logement possibles, en fait. La première forme de logement, c'est du logement chez l'habitant. Un étudiant est logé en chambre chez l'habitant, mais nous, on demande à l'habitant de s'engager à l'accueillir. Donc, on lui fait signer une charte où il s'engage à avoir une attention particulière à l'étudiant. Après, chacun a sa conception de l'accueil, mais ça peut être lui proposer de temps en temps de dîner avec lui ou veiller à ce qu'il aille bien. Et ça, on a développé un réseau de logeurs, justement, sensibles à l'hospitalité, qui veulent accueillir des étudiants chez eux dans cet esprit-là. C'est notre première forme de logement. Ça fait 16 ans qu'on travaille, justement, à développer ce réseau, de façon à avoir un panel important à proposer aux étudiants. Ensuite, on a une deuxième forme de logement qu'on a créée il y a 7 ans, qui est le logement intergénérationnel. Là, c'est un jeune qui est accueilli par une personne âgée. Il est accueilli gratuitement, donc le logement est gratuit, il paye juste une participation aux charges. Par contre, il s'engage en contrepartie de son logement à avoir une présence auprès de la personne âgée et à lui rendre des petits services. C'est ce qu'on appelle le logement intergénérationnel ou la cohabitation intergénérationnelle. Et ça, c'est vraiment une forme de logement qui va se développer de plus en plus dans les années à venir. Et notre dernière forme de logement, c'est la colocation à projet. Donc, on propose des logements en colocation pour des jeunes. Là, ce sont des jeunes qui cohabitent ensemble. Mais on leur demande de s'accueillir mutuellement, notamment en menant ensemble un projet d'ordre social ou humanitaire qu'on les aide à mener. Donc, l'association ne les lâche pas, elle les encadre, elle les aide pour mener ce projet.
Est-ce que vous pourriez nous parler maintenant plus précisément des difficultés courantes et récurrentes auxquelles sont confrontés les étudiants ?
La première difficulté, c'est de trouver un logement à un prix décent. L'offre de logement sur Rennes, elle est quand même beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 16 ans lorsqu'on a créé l'association, grâce notamment au développement d'Internet qui a permis la mise en relation directe de particuliers avec des étudiants. Mais on garde une problématique de coût importante et on garde aussi la problématique pour l'étudiant de devoir, quand il s'installe dans un logement, avancer pas mal d'argent puisqu'il a la caution solidaire à payer, le premier mois de loyer à payer, plus toute l'installation, les frais d'inscription dans sa formation et autres. Donc souvent, les premiers mois sont très durs financièrement. Donc nous, on a un certain nombre de logeurs qui ne demandent pas de caution solidaire ou qui ont des aménagements de façon à aider justement les étudiants dans ces démarches-là. La difficulté des étudiants étrangers, c'est qu'ils n'ont pas de personnes en France qui peuvent se porter caution solidaire de leur loyer. Et un certain nombre de logeurs, du coup, refusent de les héberger parce qu'ils veulent avoir une garantie. Ils sont frileux, hein. On peut les comprendre aussi parce qu'il y a parfois des impayés, mais ils refusent de loger des étudiants qui n'ont pas cette caution solidaire. Voilà, c'est les principales difficultés aujourd'hui que nous, on constate.
Mais est-ce que vous constatez néanmoins une évolution ces dernières années, plutôt positive peut-être, sur justement le traitement de ces difficultés dont vous venez de parler ?
Oui, alors évolution positive, c'est vraiment le développement fort ces dernières années de l'accueil chez l'habitant. Donc beaucoup plus de personnes accueillent chez eux un étudiant pour avoir un revenu complémentaire. Et également le développement de l'offre de logement pour les étudiants en petite surface grâce aux diverses lois qui ont permis de faire de l'achat locatif. Ça, c'est une évolution positive. Une évolution négative, c'est vraiment, nous, ce qu'on constate, c'est l'accueil de l'étudiant étranger, aujourd'hui, qui devient de plus en plus difficile au niveau du logement. D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants étrangers sur Rennes. C'est probablement le développement des partenariats entre les différents établissements français, enfin, rennais et étrangers qui l'expliquent, mais eux sont parfois dans des situations extrêmement difficiles parce qu'ils n'ont pas forcément bien calibré le budget qu'il leur fallait en arrivant à Rennes. Et on en a qui se retrouvent dans des difficultés vraiment, vraiment importantes financièrement et notamment au niveau du logement. Donc, des évolutions positives au niveau de l'offre. L'offre CROUS est toujours insuffisante, même si elle se développe. Donc aujourd'hui, l'offre de logements privés est quand même encore essentielle pour réussir à loger tous les étudiants à Rennes.
Est-ce qu'il y a des mesures émanant des pouvoirs publics récentes dont vous avez pu vous réjouir ?
Récentes, non. On sait de toutes les façons que l'allocation logement est essentielle hein, pour les étudiants. Et ils comptent énormément dessus pour réussir à se loger. Et elle est même indispensable pour un certain nombre d'étudiants qui ne pourraient pas se loger sans cette allocation logement. Elle a été réduite pour l'accueil des étudiants étrangers en courte durée. Donc ça augmente un petit peu plus les difficultés des étudiants étrangers lorsqu'ils sont pour une très courte durée sur le territoire français. Par contre, après, si, on peut dire quand même que la ville de Rennes est vraiment attentive au développement de l'offre CROUS. Et ça, c'est positif parce que c'est essentiel pour un certain nombre d'étudiants.
Merci. Et pour l'avenir sur ces questions-là, est-ce que vous êtes plutôt positif, anxieux ?
Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment d'évolution majeure qui se présente par rapport à ces quelques dernières années. Il y a encore des lois qui vont permettre à des propriétaires privés d'avoir accès, enfin d'acheter des petites surfaces qu'ils pourront mettre en location. Ça, il y en a depuis quelques années, il y en a d'autres qui arrivent, mais ça va pas changer radicalement la donne. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir davantage développer des formes alternatives de logement, comme le logement intergénérationnel par exemple, parce qu'on est dans une structure de population qui va vieillir, notamment sur Rennes, hein, on a une population relativement vieille, enfin une population âgée qui augmente chaque année. Ça veut dire aussi des personnes qui souvent ont un logement trop grand pour elles, avec des pièces vacantes, et l'accueil d'un étudiant chez une personne âgée ou l'accueil d'un étudiant en famille contre service est vraiment une source de logement étudiant qui est très positive pour nous et qui va être appelée à se développer. Aujourd'hui, les freins sont surtout au niveau des personnes âgées qui ont besoin d'apprendre à ouvrir leurs portes pour accueillir un étudiant. Mais nous, notre espoir, c'est qu'on va réussir petit à petit à lever ces freins pour pouvoir accueillir de plus en plus d'étudiants en binôme, ce qu'on appelle junior-senior. Aujourd'hui, on en a 40 à peu près, un peu plus de 40 qui sont accueillis dans ce cadre-là à la maison en ville. L'idée, c'est qu'on arrive à doubler, tripler dans les années à venir le nombre d'étudiants à accueillir chez des seniors.
Et vous pouvez retrouver les coordonnées de l'association La Maison en Ville sur le site internet de Radio Campus Rennes. Voilà, c'est déjà le moment de se quitter. Un grand merci à Claude pour la réalisation. Merci à Sherazade et Julien également pour leur aide dans la réalisation de cette émission. Merci à vous tous et on vous retrouve dans 2 semaines pour la 2e émission de Droit Devant. Merci Thomas, merci Marion et à dans 2 semaines.
Merci Geoffrey, à bientôt.